Quand nous lisons le chapitre 38 à 39 du livre de Job, nous trouvons des questions pour lesquelles nous ne pouvons jamais répondre. Les scientifiques de ce monde n'ont pas encore trouvé des réponses à ces questions. Et nul ne pourra jamais répondre. Mais ces questions remettent l'homme dans son état propre, ce qu'il est infiniment petit devant un Dieu qui est infiniment grand. Ce n'est pas important de savoir combien de questions il y a dans la Bible, mais plutôt pourquoi Dieu pose ces questions. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Donc, interroger l'homme, c'est contradictoire à sa nature. Dieu ne pose pas des questions par désir de connaître la réponse, mais plutôt pour que nous, en tant que êtres humains, remettons en question notre propre état pour comprendre notre propre état. Nous trouvons cela dès le début de la Bible, quand Dieu demande à Adam, « Où es-tu ?» Dieu savait exactement où était Adam, mais sa remise en question a non seulement mis à l'épreuve l'intégrité d'Adam et sa volonté de dire la vérité indépendamment de toutes les conséquences possibles, mais avait aussi un sens caché. La question de Dieu était aussi de s'enquérir de l'état spirituel d'Adam en demandant où il était dans sa marche avec Dieu. La question de Dieu suggérait aussi que le péché d'Adam avait mis de la distance entre lui et Dieu. Dieu faisait un point important ici. Dieu ne pose pas de questions afin qu'il puisse obtenir des réponses. Il nous pose des questions afin que nous puissions obtenir des réponses. Ce matin, j'aimerais bien que nous réfléchissions ensemble à cette question, combien nous aimons Dieu? Je sais que nous sommes tous ici ce matin parce que nous aimons Dieu. Nous l'aimons car c'est lui qui nous a aimés le premier. D'accord, nous aimons Dieu. Mais la question c'est, combien nous aimons Dieu? Tournons ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Évangile de Jean, chapitre 21. Le dernier chapitre. Nous allons voir le verset 15 à 17. Jean, chapitre 21, verset 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus demanda à Pierre cette question trois fois pour que Pierre puisse comprendre son propre cœur et aussi comprendre ce que c'est que d'aimer Jésus. Aimer quelqu'un, ce n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est un choix d'aimer la personne. Ce n'est pas tomber dans l'amour tête en bas pour dire que je t'aime, et après un autre moment pour dire je ne t'aime plus. Oui, l'amour sera souvent accompagné des sentiments, mais l'émotion n'est pas la base de l'amour. L'émotion ne crée pas l'amour, mais quand nous choisissons d'aimer, l'émotion vient. Un serviteur de Dieu s'appelle Tozer, il dit ainsi, « Les fleurs et les chants d'oiseaux ne font pas le printemps, mais quand vient le printemps, ils viennent avec elles. Dans n'importe quelle situation, nous pouvons choisir d'aimer, indépendamment de ce que nous ressentons. » Nous savons que nous sommes capables de professer facilement que nous aimons quelqu'un. Si vous allez demander à un chrétien que vous rencontrez s'il aime Dieu, il dira oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Qu'est-ce que cela signifie d'aimer Dieu? Tout d'abord, aimer Dieu exige de le connaître. Et cette connaissance commence par sa parole. Comprenez-vous pourquoi Jésus demanda à l'apôtre Pierre trois fois la même question? C'est facile à répondre oui, mais pourquoi le Seigneur demande trois fois? Aimer Christ, c'est aussi aimer sa parole, aimer tout ce qu'il aime et vouloir faire ce que cet amour nous demande. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. Toutefois, il ne s'agit pas simplement de suivre les règles et de faire de bonnes œuvres. Il s'agit d'avoir l'amour de Dieu écrit de façon indélébile sur nos cœurs. Nous souhaitons naturellement plaire à ceux que nous aimons. Quand nous aimons Dieu, nous voulons lui plaire et obéir à ses commandements avec impatience. Regardez ce que David il dit dans son psaume 40. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Aimer Dieu, c'est le mettre en premier. Le commandement numéro 1 est d'aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est un amour non partagé. Aimer Dieu, c'est un amour non partagé. Nous ne pouvons pas aimer ce monde et Dieu en même temps. Nous n'aimons pas les choses du monde. Le psalmiste il dit dans le psaume 73, « Quel autre est au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Est-ce que notre amour pour Dieu est ainsi? « Quel autre est au ciel que toi, et sur la terre je ne prends plaisir qu'en toi. » Dieu est notre priorité. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, âme, esprit et force, alors nous ne permettons pas d'autres choses de s'entasser dans notre vie. Notre amour pour Dieu se manifeste par notre amour pour nos prochains. Qui est notre prochain? Jean, dans son épître, il dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. J'espère, nous pouvons aussi sincèrement répondre à cette question que Dieu pose aujourd'hui à nos cœurs, même Dieu. Et bien sûr, nous comprenons aussi l'implication liée à cet amour que nous proclamons à notre Seigneur et notre Sauveur. Aimer Dieu, c'est accomplir le désir de son cœur, faire sa volonté. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je pense que c'est très facile à dire que j'aime Dieu. On peut dire à Dieu que je t'aime. Mais voyez, autant de choses qui est compris dedans. On peut dire que j'aime Dieu, mais si je ne lis pas la parole, je devrais poser des questions. Je peux dire que j'aime Dieu, si je n'obéis pas à Dieu, je devrais poser des questions. je peux dire que j'aime Dieu, et si je n'ai pas l'amour pour mon prochain, je devrais poser des questions. Dieu nous a aimés quand nous étions pas aimables, quand nous étions dignes d'être haïs. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous dites ce matin, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime, la question que je voudrais vous poser, aimez-vous ce que Christ a aimé? Ce que nous allons voir ce matin est plutôt cette question, aimez-vous l'Église de Christ comme Christ l'a aimé? Aimez-vous l'Église de Christ comme Christ l'a aimé? Nous allons plutôt nous concentrer sur cette question ce matin, comment Christ a pu aimer l'Église? Nous trouvons cette question dans le contexte, dans Éphésiens 5, 25, je vais lire, « Marie, aimez vos femmes ?» comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La parole de Dieu nous révèle le cœur de Dieu dans ces versets. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons la preuve de l'amour de Christ pour son Église. Ce n'est pas une simple profession d'amour, comme nous le faisons souvent, mais il était jusqu'au bout. Et s'est livré lui-même pour elle. Voyez quel amour Christ manifesta envers son Église. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé l'Église afin de mourir pour elle. Christ a aimé l'Église. Ce verset est placé merveilleusement dans un contexte pour que nous puissions comprendre ce grand amour. Le mari est commandé d'aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Pourtant, chaque mari connaît sa femme et qu'elle n'est pas quelqu'un parfait. Et aussi la femme, elle connaît que le mari n'est pas quelqu'un parfait. L'Église est l'épouse de Christ. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit dans son deuxième épître aux Corinthiens 11:2. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Qu'est-ce que cela signifie que l'Église est la mariée du Christ? L'imagerie et le symbolisme de mariage s'appliquent au Christ et au corps des croyants connus sous le nom de l'Église. L'Église est composée de ceux qui ont fait confiance à Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et l'ont reçu la vie éternelle. Christ l'époux a choisi de l'Église de façon sacrificielle et amoureuse pour être son épouse. Tout comme il y avait une période de fiançailles dans le temps biblique au cours de laquelle les mariés ont été séparés jusqu'au mariage et dont le marié du Christ séparé de son époux pendant l'âge de l'Église. Sa responsabilité pendant la période des fiançailles et d'être fidèle à lui. 2 Corinthiens 11, 2. Lors de l'enlèvement, l'Église sera unie à l'époux et la cérémonie officielle du mariage aura lieu et avec elle, l'union éternelle du Christ de son épouse sera actualisée. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car la fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Apocalypse 19, 7 à 9. Maintenant, nous posons la question, comment Christ a pu aimer l'Église? Si vous arrivez à comprendre comment Dieu peut vous aimer, nous aimer, les gens vils comme nous. Regardez en Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, le premier 9 verset. « ça parle de notre état par rapport à Dieu. Éphésiens 2, le premier 9 versets. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous voyons ici ce que Christ il a fait. Son œuvre, et dans une façon, on peut imaginer que l'Église, c'est une vitrine dans ce monde. Puisque les gens du monde, ils peuvent voir et admirer ce que Dieu a fait. Et nous avons mal à aimer l'Église, n'est-ce pas? Christ a aimé l'Église malgré son état. Mais nous avons mal à aimer l'Église. Au moins, nous n'aimons pas l'Église comme Christ a aimé son Église. J'avoue que l'Église n'est pas parfaite. Loin de là. L'Église est composée de gens comme vous et moi qui n'ont pas du tout parfait. Et personne n'est parfait dans cette salle. Spurgeon a dit ainsi. Écoutez bien, si je n'avais jamais rejoint une église jusqu'à ce que j'en ai trouvé une qui était parfaite, je n'aurais jamais dû m'en joindre une. Et dès que je l'ai rejointe, si j'en avais trouvé une, j'aurais gâché, car elle n'aurait pas été une église parfaite après que je l'ai fait partie de celle-ci. Pourtant, aussi imparfait qu'il soit, c'est l'endroit le plus cher sur terre pour nous. Amen. L'Église, elle n'est pas parfaite, mais Christ chérit son Église. Car il a donné sa vie pour elle. Personne n'est parfait dans cette salle. Si quelqu'un de vous dit ainsi, lui sera un menteur. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la parole de Dieu. Cette congrégation est composée de pécheurs pardonnés. On est tous des pécheurs pardonnés. Dieu nous voit comme une assemblée des saints à cause de la mort propitiatoire de son Fils Jésus-Christ. Car c'est lui qui a payé le prix pour notre rédemption. Nous avons reçu le salut gratuitement parce que Dieu a payé le prix. Sinon, ce ne serait pas juste. Nous avons reçu le salut gratuitement, mais Dieu qui a payé le prix pour notre salut, par son Fils. L'un des exemples les plus étonnants de l'amour infaillible dans la Bible est présenté dans le livre de Osée. Dieu ordonne au prophète Osée d'épouser une femme nommée Gomer, qui est probablement une prostituée et se révélerait être une épouse infidèle. C'est étonnant, n'est-ce pas? Dieu, il demande son prophète d'aller épouser une prostituée. L'infidélité de Gomer est un tableau vivant de la déloyauté d'Israël envers le Seigneur, dans l'adoration des autres dieux. Dieu utilise l'illustration du mariage pour enseigner sa colère juste face au péché d'abandon et d'adultère spirituel d'Israël, tout en ne cessant jamais d'inviter Israël à revenir à lui afin qu'il puisse l'aimer à nouveau. Même l'Église, elle n'était jamais fidèle, mais Dieu, il est fidèle. L'amour implacable et la fidélité d'Osée à sa femme sont un portrait saisissant de l'amour indéfectible de Dieu pour son peuple. À un moment donné, alors que Gomer est seul et vit probablement comme une esclave, Osée achète Gomer avec 15 pièces d'argent et une quantité d'orge. L'incident reflète la posture de Jésus-Christ quand il pardonne, quand il restaure et offre une nouvelle vie, la liberté, vie de liberté à la femme prise dans l'adultère. Osée préfigure également comment Jésus-Christ racheterait un jour un monde pécheur en payant le prix de sa propre mort sur la croix. Le livre prophétique nous assure de l'amour inconditionnel et infaillible de Dieu. Oui, mes chers frères et sœurs en Christ, notre Sauveur a aimé ceux qui ne sont pas des aimables, ceux qui composent aujourd'hui son Église, Église de Christ. Mais pourtant, nous avons mal à aimer l'Église de Christ. Nous ne pouvons pas aimer Jésus sans aimer son Église. Regardons ensemble en Colossiens 1, épître de Colossiens chapitre 1. À partir de verset 16 jusqu'à 20. Colossiens 1, 16 à 20. Car en lui ont été créées toutes choses, toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ce que Christ a fait pour réconcilier les deux parties. Parfois, nous nous trouvons des gens qui disent qu'ils aiment Jésus-Christ et pas son Église. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils sont dans la nature. Ils vont nulle part. Ils sont des gens qui sont dégoûtés de l'Église. Vous pensez que c'est cohérent? Non, il y a quelque chose qu'il ne voit pas, non? Quand on aime quelqu'un très fort, comment haïr quelque chose la personne aime très fort? Si on dit qu'on aime une personne très fort, comment on peut haïr une chose que la personne aime très fort? Vous ne pouvez pas aimer Jésus sans aimer son Église. Le christianisme est inextricablement lié à l'Église locale. En fait, l'Église locale est l'expression du christianisme par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament dépeint les chrétiens et l'Église locale toujours ensemble. Comme ce que nous avons vu en Colossiens, il est la tête du corps de l'Église. On peut pas séparer, on peut pas imaginer un corps sans tête. Un tête sans corps. Nous qui sommes dans l'Église de Christ, nous connaissons des problèmes qui existent dans ce corps, comme nous connaissons les problèmes qui existent dans notre famille, dans chaque famille. Et pourtant, c'est une vérité merveilleuse que Christ, qui est tête de l'Église, et n'est pas distant avec ce corps imparfait. Nous aimerions pas être associés avec quelqu'un qui n'est pas bien. Toujours, les gens ils aimeraient bien être attachés avec quelqu'un qui est bien, qui est vu comme une personne bien, comme quelqu'un parfait. Mais ce que Christ a fait avec l'Église, elle s'est liée avec ce corps qui est imparfait. L'Église universelle et l'Église locale. Une autre idée fausse concerne l'Église universelle et l'Église locale. L'Église universelle se réfère à tous les rachetés dans l'histoire du monde. L'Église universelle est souvent appelée l'Église invisible parce que nous ne sommes finalement pas en mesure de savoir qui ou combien la compose. Et pourtant, presque toutes les références de l'Église dans le Nouveau Testament sont sur l'Église locale. Par l'Église locale, je veux dire un groupe de chrétiens qui se sont engagés à se réunir régulièrement pour le culte et le ministère. Mais quelqu'un peut dire que je suis sauvé, je suis dans l'Église universelle. Ce qui est vrai, ce n'est pas faux. Mais la personne, tant qu'il est une personne dans le physique, il devrait absolument être lié en union, en communion avec une Église locale. Encore une fois, beaucoup soutiennent aujourd'hui que l'appartenance ou d'être membre à l'Église n'est pas dans la Bible. Mais l'Église primitive a gardé un rouleau, au moins sous une certaine forme. Nous voyons l'Église au début de mentionner le nombre d'ajouts et dans le baptême. Nous le voyons parler à la fois de l'inclusion et de l'exclusion de l'Église. Dans le premier chapitre de Actes des Apôtres, dans le premier chapitre du livre d'Actes, nous trouvons qu'il y a 3000 personnes qui étaient ajoutées à l'Église. Et quand quelqu'un qui a commis des choses, la personne était exclue de l'Église. Donc il y a une certaine forme d'un registre qui était gardé. L'ensemble du Nouveau Testament parle de l'Église. Dans Matthieu 16-18, Jésus déclara « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ça, c'est la promesse de Dieu pour son Église. Je dis que l'Église, elle n'est pas parfaite. Dieu, elle est en train de bâtir son Église. Et elle est en travaux, elle est en construction. Mais elle sera parfaite un jour quand Christ reviendra. Mais personne n'a le droit d'accuser l'Église de Christ. Comment on peut oser d'accuser l'épouse de Christ? Mais chaque fois quand nous disons quelque chose contre l'Église, et nous devrions en souvenir que nous accusons l'épouse de Christ. Épouse de Christ pour laquelle Christ a donné sa vie. Le livre d'Actes commence par la naissance de l'Église, par la prédication de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Le livre se poursuit alors que l'Église se répand dans toute la région méditerranée et au-delà à travers la prédication des apôtres et la puissance de l'Esprit-Saint. En outre, les épîtres du Nouveau Testament ont toutes été écrites sur les églises. En eux, les auteurs expliquent ce que les églises sont à croire et enseigner et comment ils doivent se servir et s'organiser. À la fin du Nouveau Testament, le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean enregistre les 7 lettres de Jésus à 7 églises et ponctue la conclusion de la Bible avec le retour de Jésus pour son épouse, l'Église. Sur la route de Damas, Jésus compare l'Église à lui-même. Vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Saül ? Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Jésus n'est pas demandé, Saül, Saül, pourquoi tu persécutes l'Église ? Il parle comme si que Saül, il persécuta lui-même. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? Autrement dit, la façon dont on voit l'Église, engageant dans une Église et traite l'Église de Jésus-Christ, reflète la façon dont on voit, s'engage et traite Jésus lui-même. Mais parfois, on prend très léger à l'Église de Christ. Et la façon qu'on voit, notre façon de regarder l'Église, est-ce que nous prenons très léger l'Église de Christ? La façon que nous engageons dans le ministère, dans l'Église, pour faire quelque chose dans l'Église. Et personne n'est indispensable dans l'Église de Christ, sauf que Christ. Et la façon que nous traitons l'Église de Christ, ça reflète exactement la façon dont nous traitons Jésus lui-même. Et les gens, ils cherchent une église de leur idée, comme ils cherchent un Dieu, la façon qu'ils s'imaginent. Mais qui a besoin de l'église locale quand je peux avoir mes sermons, ma musique et la communauté comme je le veux? Les gens, aujourd'hui, c'est très facile à écouter un sermon, écouter la musique. Ou trouver une communauté qui me plaît, qui pense comme moi. Aujourd'hui, dans le monde virtuel, on a tout. On n'a pas besoin de venir à l'église. Mais pourquoi on vient à l'église alors? La communion fraternelle que nous avons, on ne peut jamais trouver nulle part. Ça, c'est uniquement dans l'église de Christ qu'on peut trouver cette communion fraternelle. L'église que je cherche, il n'y a pas de conflit, pas de lutte, pas de désaccord et pas vraiment besoin d'unité. Pourquoi s'embêter? Je peux tout avoir. Et les gens, ils cherchent une église sans friction, sans conflit, pas de lutte, pas de désaccord. Tout le monde est d'accord sur tout et pas vraiment besoin d'unité. Pourquoi s'embêter? Si Dieu nous a mis ensemble, nous, naturellement, nous ne pouvons pas être en accord entre nous. Dans l'ancienne nature, on ne peut pas vivre ensemble. Mais Dieu l'a fait ainsi que nous devrions vivre ensemble. De même accord, même pensée, avec le même amour. Nous préférons être des consommateurs de religion, de relations, et en prenant les pièces que nous voulons, et en laissant de côté des parties que nous n'avons pas besoin. Et parfois, on peut venir à l'église avec un esprit de consommation, esprit de consommateur. On entre dans cette salle en tant qu'un consommateur. On peut facilement dire que ce message, ça me plaît, l'autre message, ça ne me plaît pas, ce chant, ça me plaît, la musique, ça me plaît ou ça ne me plaît pas. Ou l'église, elle me plaît ou ça ne me plaît pas. Je cherche une autre église. Ou parfois, on peut trier, faire le tri parmi les réunions. Ce n'est pas à cause de notre contrainte que nous avons, mais selon nos envies. Je peux venir le dimanche parce que dans ma tête, le dimanche, c'est le plus important. Des autres réunions ne sont pas importantes. Donc, je peux absenter pour les autres réunions. Et on peut facilement trouver des excuses pour ne pas assister des autres réunions. C'est comme si on fait le cours chez Carrefour, où on prend ce qu'on veut, où on laisse ce qu'on ne veut pas. On devrait poser des questions par rapport à notre attitude envers l'Église de Christ. Et donc, malheureusement, nous nous grattons la tête et nous demandons pourquoi nous n'arrivons pas à trouver le genre d'expérience communautaire que nous recherchons tout en restant volontairement adolescents dans nos habitudes relationnelles. Et pourquoi, parfois on pose des questions, mais pourquoi je n'ai pas grandi depuis des années? On a choisi d'être adolescent avec nos caprices. Il y a peu d'humilité dans l'Église. Il y a très peu de demandes, peu d'écoute, peu de compréhension et encore moins de pardon. Quand l'Église tourne sur l'axe de moi-même, mes besoins, mes désirs, mes préférences et mes opinions très importants, il y a peu de place pour quelqu'un d'autre. Est-ce que nous avons cette attitude dans l'Église? C'est « je viens avec un esprit de consommateur en pensant en moi-même, à moi-même ». Je n'ai pas beaucoup de soucis pour mes frères et sœurs, mais je viens pour recevoir ce que moi j'aime. Donc dans cette église, dans ce type d'église, il n'y aura pas de place pour des autres personnes sauf que le moi. Pour terminer, nous allons lire Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. S'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, tous et parmi tous et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre? Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour ce perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Quand nous lisons ce verset pour la il a donné. Il y a plusieurs fonctions dans l'Église, il y a plusieurs ministères dans l'Église. Si vous regardez une société où il y a plusieurs types d'employés, tout le monde n'est pas le cuisinier. Il y a les cuisiniers, il y a des boulangers, il y a toute autre chose. Donc, dans l'Église de Christ aussi, il y a plusieurs vocations et plusieurs appels. Et la seule chose que nous servons dans l'Église de Christ, le seul maître. Nous avons un seul Dieu et un seul maître. Verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Éphésiens 5, 26 à 27. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier pour la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ce sera fait un jour quand Christ apparaîtra. Mais jusqu'à maintenant, jusqu'à ce moment, l'Église, elle sera imparfaite. Parce que l'Église, elle est remplie par les gens comme nous. Tant que nous ne sommes pas parvenus à la perfection, l'Église, elle ne peut pas être parfaite. Et donc, je voudrais que nous quittions de ce lieu aujourd'hui avec cette question. Aimons-nous l'Église de Christ comme Christ a aimé son Église et donné sa vie pour elle? Aimons-nous l'Église de Christ comme Christ a aimé son Église et donné sa vie pour elle? Prions. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous pose cette question pertinente. Seigneur, pour voir notre état d'âme, dans quel état nous sommes, Seigneur, pour savoir si nous t'aimons véritablement. Si notre amour pour toi, l'amour que nous professons, est vrai et sincère. Seigneur, nous te remercions pour ton Église. Seigneur, nous n'avons rien fait pour... puisqu'elle peut exister. Seigneur, c'est toi qui as conçu dans ta préséance, dans l'éternité. Seigneur, c'est toi qui as aimé cette Église, Seigneur, et tu as fondé ton Église pour laquelle que tu es le chef, tu es la tête. Aide-nous à comprendre notre fonction et fonctionner dans ton corps avec humilité. Seigneur, notre modèle, c'est toi. Seigneur, aide-nous à t'imiter ton humilité, Seigneur. Et Seigneur, nous n'avons rien à être orgueilleux. Seigneur, aide-nous à pratiquer l'amour que tu nous as montré en descendant sur cette terre comme un simple serviteur, comme un esclave. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui nous a fait partie de ce corps, pour ton miséricorde, Seigneur, que Seigneur, tu ne nous as pas punis selon nos iniquités, mais tu nous as pardonné par ton grand amour, par ta mort sur la croix. Seigneur, merci pour ton sang qui était versé sur la croix, qui nous lave de tous nos péchés et de nos iniquités. Seigneur, gloire soit toi à ton saint nom. Seigneur, en tant qu'une église, nous pourrons amener la gloire à ton saint nom. Et que cette église peut être une vitrine pour ce monde qui le voit. Seigneur, comme ta parole dit que le monde peut voir et glorifier le Père qui est aux cieux. Seigneur, fais-nous le morceau de sel et la lumière pour ce monde. Que Seigneur, nous comprenons notre fonction et être dignes de cet appel que nous avons reçu pour être à toi. Seigneur, nous prions tout cela dans ton saint nom et pour ta seule gloire. Amen.